Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Ce déchaînement de violence est totalement stupéfiant. Réaction du président de SOS Racisme après qu'une douzaine de militants de l'association a été agressée par des participants lors du meeting d'Éric Zemmour hier à Villepinte. Il menait une action non violente. Dominique Sopo annonce que des plaintes seront déposées. Il sera l'un de nos invités. Le président algérien a reçu ce lundi à Alger le président palestinien Mahmoud Abbas qui effectue une visite de 3 jours en Algérie. La France et l'Arabie Saoudite soulignent la nécessité pour le gouvernement libanais de mettre en œuvre des réformes globales, en particulier l'engagement à appliquer l'accord de Taif. C'est ce qu'indiquait ce dimanche un communiqué de l'Élysée suite au déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Nous y reviendrons avec la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine. Le pape François a achevé une visite de 2 jours et demi en Grèce, un voyage marqué par un déplacement sur l'île de Lesbos et par ses appels en faveur d'une meilleure intégration des migrants en Europe. Cet appel d'Amnesty International, l'ONG appelle les pays à rapatrier les enfants étrangers enfermés dans des camps au nord-est de la Syrie. Nous écouterons Lynn Malouf, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'Amnesty International. L'équipe de France féminine de handball poursuit son aventure au Mondial 2021. Elle s'est imposée hier soir face à la Slovénie avec un score final de 29 à 18. Le parquet de Bobigny ouvre une enquête après les violences lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Une douzaine de militants de SOS Racisme a été agressés par des participants. Les militants de l'association menaient une action non violente. Ils se sont levés au fond de la salle avec une lettre en jaune sur chacun de leurs t-shirts noirs avec comme message « Non au racisme ». Ils ont alors été violemment pris à partie et frappés. Entretien avec le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
C'est quand même interrogeant. Lorsque l'on vient rappeler dans un meeting simplement cette évidence de non-racisme, qui est quand même un peu un des fondements de la République, et de la capacité des sociétés à traiter chacun à égale dignité, eh bien cela déclenche une haine furieuse de la part des personnes qui gravitent dans l'entourage d'Éric Zemmour, qui gravitent dans cette salle de Villepinte où se tenait le meeting qui, soi-disant, était censé montrer que Éric Zemmour, finalement, entraînait derrière lui des gens respectables. Je pense que c'est la démonstration inverse qui a été faite à l'occasion de cette agression inqualifiable qui a valu des blessures à plusieurs militants, dont 2 ont dû être pris en charge par des pompiers avec des plaies ouvertes.
Est-ce que vous vous attendiez à une réaction de la part des militants et des sympathisants d'Éric Zemmour suite à cette action ?
Alors, qu'il y ait une réaction, oui, on pouvait s'attendre à des huées, on pouvait s'attendre à éventuellement un service d'ordre qui intervient pour accompagner les militants dehors, mais de toute façon, encore une fois, vous savez, l'opération, elle devait durer 15 secondes, et puis point barre. Donc, de toute façon, bon, voilà, ça pouvait pas normalement aller très très loin. Et en plus, c'était devant les caméras, parce qu'on sait aussi que les caméras ont souvent un caractère protecteur, parce que les personnes hésitent aussi à faire preuve de violence ou à lancer des insultes lorsqu'il y a des caméras qui tournent. Et là, ce qui est quand même spectaculaire, c'est le niveau de violence, le niveau de haine qui se déploie dans cette salle où un candidat à la présidentielle est en train de parler, en expliquant qu'il n'est ni raciste ni misogyne au moment même où des gens qui viennent pour le soutenir se jettent sur des militants antiracistes, les blessent et fracassent des femmes jusqu'à les mettre en sang. Ce déchaînement de violence est totalement stupéfiant et les journalistes qui étaient présents sur place ont eux-mêmes été stupéfaits de voir que cette scène pouvait être menée comme ça, comme si de rien n'était, alors même que les caméras tournaient.
Comment accueillez-vous les différentes réactions politiques suite à ces agressions subies par ces militants de SOS Racisme et notamment les réactions de certaines personnalités des Républicains ?
Alors, il y a eu beaucoup de messages de soutien des militants qui ont été agressés, beaucoup de messages de condamnation des agresseurs, bien évidemment, et donc tous ces soutiens, évidemment, sont appréciables et je remercie toutes celles et tous ceux qui, dans la clarté, ont soutenu les agressés contre les agresseurs. Malheureusement, il est vrai que une partie des Républicains manifestement perd la tête parce que nous sommes dans des tergiversations pour qualifier clairement ce qui s'est passé, à savoir une agression inqualifiable que certaines personnes chez les Républicains, Valérie Pécresse et Gérard Larcher, renvoient à une provocation de la part des militants de SOS Racisme. Je m'inquiète quand même que des personnes qui sont dans la vie politique depuis autant d'années puissent raconter que dire non au racisme dans un meeting électoral soit une provocation, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de lieu dans la République où on ne puisse pas dire non au racisme. Et la provocation, c'est lorsque des individus se jettent sur des militants pacifiques, se jettent sur des militants qui mènent une action non violente pour les fracasser parce que précisément, ils ont dit non au racisme, puisque c'est le seul acte qui a été mené par ces militants. Donc, j'appelle la droite à se ressaisir quelque peu, à arrêter de faire risette avec M. Zemmour et avec son électorat, et de retrouver un peu de dignité.
Ce type d'action, ces messages contre le racisme, vous entendez les délivrer de nouveau lors de prochains meetings ?
SOS Racisme continuera ses actions de contestation de la parole de M. Zemmour, qui est une parole raciste, qui est une parole homophobe, qui est une parole misogyne, qui est une parole qui suscite la violence, ce pourquoi elle a été condamnée déjà à plusieurs reprises. Et on voit bien que précisément ce candidat est un candidat qui ouvre les vannes de la violence dans la société française, puisque c'est le candidat qui autorise et qui dit de toute façon, vous êtes tenu, contenu, retenu pendant des années de toutes vos mauvaises passions, eh bien libérez toutes vos haines, libérez toutes vos mauvaises passions, parce que moi je vous dis que en fait, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et donc bien évidemment, face à ce danger du déchaînement de la violence, nous allons continuer à militer sous les différentes formes qui sont celles habituellement de SOS Racisme. Nous allons continuer plus globalement d'ailleurs à dénoncer l'extrême droite et à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés d'être tendres avec l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas qu'Éric Zemmour dans ce camp politique, il ne faut pas l'oublier. Et bien évidemment, nous continuerons à promouvoir des propositions pour faire en sorte que l'égalité devienne effective pour l'ensemble des citoyens, en demandant aux candidats à la présidentielle qui sont dans le camp, j'allais dire, de la démocratie, donc pas M. Zemmour et pas Marine Le Pen, mais aux candidats qui sont dans le camp de la démocratie, eh bien ce qu'ils comptent mettre en œuvre pour faire progresser l'égalité, pour lutter contre les discriminations, pour faire en sorte que les quartiers populaires soient mieux traités, pour donner un avenir à chacun. Donc oui, nous allons continuer, bien évidemment, à agir, et même plus que jamais en ces temps extrêmement troubles où des candidats essayent de faire en sorte que la violence soit ce qui régit les relations entre les citoyens.
Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui face à ce climat ?
Quand on est militant, on n'est pas inquiet. On regarde les choses et on a l'optimisme du militant. Ceci étant, je pense que la scène que l'on a vue est une scène qui doit alerter chacun. C'est que lorsque des gens se sentent suffisamment autorisés pour fracasser des gens pacifiques devant des caméras, c'est qu'il y a un cap qui a été franchi. Et j'appelle tous les responsables politiques, plutôt que de faire risette avec cette violence et d'essayer d'en retirer quelques misérables fruits électoraux, de faire preuve de fermeté, de hauteur et d'esprit de République, plutôt encore une fois que d'aller se vautrer dans une forme de complaisance qui ne peut que légitimer encore plus de violence demain.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Des manifestations contre le pouvoir dominé par les militaires au Soudan. La police a tiré des grenades lacrymogènes. Ce lundi, sur des milliers de manifestants, des cortèges sont partis de différents quartiers de la capitale, Khartoum, mais aussi d'autres villes du pays. Le président algérien a reçu ce lundi à Alger le président palestinien Mahmoud Abbas. Il effectue une visite d'État de 3 jours en Algérie. Au menu de cette visite, notamment la préparation du prochain sommet de la Ligue arabe, prévu le 22 mars prochain à Alger. La France et l'Arabie Saoudite soulignent la nécessité pour le gouvernement libanais de mettre en œuvre des réformes globales, en particulier l'engagement à appliquer l'accord de Taif. C'est ce qu'indiquait ce dimanche un communiqué de l'Élysée, cela suite au déplacement du chef de l'État français dans le Golfe. Emmanuel Macron, qui a lancé une initiative pour aider le Liban avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Nous y revenons avec la journaliste franco-libanaise Ronda Takhidine.
C'est vraiment une dynamique conjointe franco-saoudienne pour essayer de sauver le Liban de l'effondrement total. Le Liban s'effondre actuellement, mais il peut aller encore plus loin. Et le président Macron a tout fait pour essayer de dire aux Saoudiens qu'il faut qu'ils se réengagent au Liban. Et je pense que il a pu les convaincre, mais aussi il y a bien sûr un grand défi, il y a beaucoup de difficultés qui sont libanaises. D'abord, le contrôle par Hezbollah de la situation, ça ne va sûrement pas plaire aux Saoudiens, ils vont pas changer d'avis là-dessus. Sauf que ils vont pouvoir essayer, par exemple, de reprendre les relations économiques ou commerciales. Mais tout ça dépend aussi du gouvernement libanais, de ce qu'ils vont faire comme réforme. Et est-ce que le gouvernement, d'abord, va se réunir? Est-ce que le Hezbollah va continuer à bloquer les réunions du gouvernement? Tout ça, ce sont des questions qui sont un défi, vraiment. Mais je pense que la visite du président Macron en Arabie Saoudite a été très utile et très importante pour le Liban, parce que quand même, c'est un processus, une dynamique franco-saoudienne, et les Français vont continuer à œuvrer pour convaincre l'Arabie Saoudite d'aider le Liban. Et ça, c'est très important.
Et les deux parties ont souligné que les armes devaient strictement être restreintes aux institutions légales de l'État et que le Liban ne devait être la source d'aucun acte terroriste qui déstabilise la région ou d'exportation de stupéfiants, selon les propos de l'Élysée. À qui s'adresse ce message?
Les sources de l'Élysée ont répondu à ma question sur le communiqué conjoint, en partie sur cette affaire des armes. Et ils ont dit que ce n'est pas la première fois qu'ils le disent, que ça a été dit dans toutes les résolutions des Nations Unies que la France a voté au Conseil de sécurité sur le Liban, que la France n'accepte pas les armes du Hezbollah, bien sûr. Mais entre que la France n'accepte pas et ce que Hezbollah fait au Liban, ben ce n'est pas... Hezbollah n'est pas la France.
La journaliste franco-libanaise Randa Takieddine. 4 combattants kurdes ont été tués, 5 blessés lors d'une attaque imputée au groupe État islamique dans le nord de l'Irak. La 3e attaque de ce type en moins de 2 semaines. Cet appel d'Amnesty International, l'ONG appelle les pays à rapatrier les enfants étrangers enfermés dans des camps au nord-est de la Syrie. Selon la commission d'enquête de l'ONU, 27 000 enfants d'environ 60 pays sont détenus dans des camps administrés par l'administration autonome kurdo-syrienne. Entretien avec Lynn Malouf, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'Amnesty International.
Ce qu'on est en train de demander aux États, c'est que les rapatriements de tous leurs ressortissants doivent être faits. Les enfants, sans aucun délai, parce que ça fait déjà 2 ans de perte de leur vie à ces enfants-là, la responsabilité juridique légale des autorités françaises ou autres qui ont des ressortissants, c'est de mettre en priorité l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que si l'intérêt de l'enfant est de ne pas être séparé de sa mère, de son père, c'est de faire en sorte que les rapatriements se fassent en famille. Mais à condition donc que les membres de la famille, donc les adultes, soient enquêtés aussi comme suspects, comme possibles personnes qui auraient pu commettre des crimes lors de leur présence dans cette région-là.
Les parents donc qui devraient être jugés et ainsi, du coup, séparer des enfants à leur arrivée en France.
Oui, c'est ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois que ces enfants sont rapatriés, qu'il y ait des programmes de réintégration, de réinsertion, qu'il y ait aussi en même temps, pendant ce temps, que les donateurs principaux, donc des États qui sont en train de financer un petit peu l'aide humanitaire dans cette région-là, soient aussi en train de s'assurer que cette aide financière qui arrive à ces camps-là soit axé aussi sur les besoins psychologiques des enfants qui s'y trouvent.
Lynn Malouf, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'Amnesty International. La fin ce lundi d'une visite de 2 jours et demi du pape François en Grèce, un voyage marqué par une visite sur l'île de Lesbos et par les appels du souverain pontife en faveur d'une meilleure intégration des migrants en Europe. Le repli sur soi et les nationalismes, comme l'histoire nous l'enseigne, mènent à des conséquences désastreuses, a notamment déclaré le pape pape François. L'équipe de France féminine de handball poursuit son aventure au Mondial 2021. Elle s'est imposée face à la Slovénie dimanche soir avec un score de 29 à 18. Les Bleus sont assurés de leur qualification pour le tour principal. Il leur reste le match de ce mardi face au Monténégro pour engranger le maximum de points possible dans ce tour préliminaire. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Jacques Baudrier, adjoint PCF à la maire de Paris, élu du 20e arrondissement de la capitale. Pluriel, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.